Le bureau des rêves perdus. Une émission de Louis Mollion avec les rêves perdus de Georges Cochon. Illustration musicale par Aimable et Jean Méril. Réalisation Albert Riera.
Si personne aujourd'hui n'ignore le nom de l'abbé Pierre, qui se souvient encore de l'action de Georges Cochon en faveur des sans-logis. Georges Cochon, qui à 79 ans, vit à Maintenon avec sa retraite d'économiquement faible. Président du syndicat des locataires qu'il fonda au début du siècle, il organisa les fameux déménagements à la cloche de bois et les raffus de Saint-Polycarpe. Ouvrier tapissier, poseur de linoléum, Georges Cochon vivait péniblement avec sa famille, car chacune de ses expéditions spectaculaires, trois fois par semaine, lui valait une nuit au poste de police. Les journaux consacraient à ses exploits leurs éditoriaux, et j'ai même retrouvé au bureau des rêves perdus plusieurs chansons inspirées par Georges Cochon.
C'est Monsieur Poincaré, c'est Monsieur Poincaré, qui est le président de la République. Et c'est Monsieur Cochon, et c'est Monsieur Cochon, et c'est Monsieur Cochon, le président des sans-pognons.
Enfant, je dirais. C'est difficile à dire parce que ça ne peut pas être accepté par tout le monde. Mais, enfant, je pourrais dire que je suis né révolté contre les injustices sociales, déjà à l'école. Tout ce qui était contraire à l'égalité, à la justice entre les enfants même, me révoltait et me lançait dans toutes sortes de bagarres. J'ai continué dans la vie. J'étais révolté quand j'étais un homme aussi. J'ai commencé à travailler. Contre la justice sociale, l'égoïsme des uns, des patrons en particulier, et le laisser-aller des ouvriers entre sous. Plus tard, alors, ma révolte s'est concrétisée contre les guerres homicides, contre les injustices sociales qui m'apparaissaient plus apparentes. Et là, j'ai été la révoltée définitive que j'ai été, que je suis et que je reste. Je vivais à Chartres, enfin. Mes parents étaient blanchisseurs. C'était un métier de forçat. Mon père était un travailleur acharné. Avait beaucoup de mal à joindre les deux bouts ensemble. Et malheureusement, il est mort pauvre. Il est mort pauvre, mais quand il a dû cesser de travailler à 75 ans, je n'étais pas là. C'était l'époque où M. Clémenceau m'avait rappelé à lui pour aller extraire du minerai dans les mines de Luanza. Il a fallu que j'accomplisse ma mission d'abord, qui a duré 3 ans. Et quand je suis revenu, j'ai trouvé mon père avec 100 francs à manger par mois et crevant littéralement de faim. Ma mère était morte en 1915. À partir de ce moment-là, j'ai qu'un seul objectif. Vivre pour mon père. Et j'ai pu lui assurer, jusqu'à sa mort à 83 ans, une vie à laquelle il ne croyait pas. Toute la joie de ma vie, la plus grande joie de ma vie. À Paris pour chercher du travail. Mais je n'ai pas trouvé. J'étais tapissier, petit ouvrier tapissier, pas très calé sur son métier, mais enfin, je pouvais tout de même travailler. Je n'ai pas trouvé de travail. Alors j'ai vendu la presse. J'ai fait toutes sortes de choses. J'ai vécu des frites, encore des frites de dessous. Je me suis défendu comme ça, mais très, très difficilement. Quand je vendais la presse, on prenait 50 tous les soirs. Si je les vendais, j'avais gagné 20 sous. Et je vivais avec ça. Après, j'ai posé du linoléum. Là, j'arrivais à gagner mes 100 sous par jour. C'était le pactole. Là, à ce moment-là, c'était la grande noce, 100 sous par jour. Et évidemment, je ne prenais pas des autobus, parce que ça coûtait trop cher. Je marchais à pied, mais je pouvais marcher à pied. Alors là, la vie était belle. À ce moment-là,
lorsque je regardais de très près tout de même, je revenais à ce moment-là du régiment, où j'avais d'ailleurs été un très mauvais soldat, mais enfin je m'en étais tiré quand même. Et je me suis aperçu que les ouvriers eux-mêmes avaient créé des syndicats pour se défendre, pour défendre leur salaire, pour défendre leur droit à la vie. Mais les ouvriers aussi, c'était pas seulement ouvriers, c'était aussi locataires. À ce moment-là, on ne voulait pas de gosses dans les maisons. Si un ouvrier, n'importe qui, dans la classe ouvrière qui m'intéressait particulièrement, louait en logement des jeunes, eh bien, si la femme, au bout d'un certain temps, donnait des signes de grossesse, immédiatement le propriétaire lui donnait congé. On n'acceptait pas de gosses dans les maisons. Il n'en voulait pas. Ça détruisait. Il donnait congé, qu'est-ce qu'il y avait à faire contre ça? Rien. Il fallait qu'il s'en aille. Le propriétaire n'avait pas à fournir les raisons de son congé. Il devait seulement le donner dans les délais légaux. Il foutait purement et simplement à la porte. Simple congé. Citation référée et expulsée. Si une famille s'amenait avec 2-3 enfants pour louer, on lui refusait purement et simplement de louer. Aucune espèce de défense. Le propriétaire avait le droit de donner congé en respectant les délais légaux quand il le voulait. Même s'il était un bon locataire qui payait son terme. S'il ne payait pas son terme, il arrivait à ce moment-là, puisqu'il n'y a aucune loi sociale à ce moment-là, vraiment pas. S'il avait été au chômage, s'il avait été malade, il n'y a pas non plus d'assurance sociale, bah, et qu'il soit absolument à bout de course, et qu'il n'ait plus d'argent, et que le propriétaire le mette à la porte, lui donne congé. Et en partant, le propriétaire avait le droit de saisir les meubles pour les sommes qui lui restaient dues, et de les faire vendre. Il y a quelque chose de révoltant. Si c'était précipité un individu à la misère, elle l'empêchait de se relever, puis je détruisais son intérieur. Et bien, contre ça, nous avons aussi créé des mouvements spectaculaires peut-être, mais pour mettre le public devant les réalités et puis pour tenter de créer chez nous un mouvement de révolte. Donc c'est pour toutes ces raisons-là qu'on a fondé le syndicat des locataires. Alors là, c'est très drôle. Ben, il fallait d'abord créer le syndicat. Pour créer un syndicat, il faut avoir des syndiqués. Pour avoir des syndiqués, il faut avoir des gens qui cotisent et qui puissent cotiser. Bon, eh bien, j'allais dans les bistrots. Je causais avec des gens au comptoir. Je vais faire le syndicat des locataires, ça collait ou ça collait pas, mais je faisais mon possible. La cotisation était de 1 franc par an et de 50 centimes par mois. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire le syndicat. Tandis qu'on a obtenu des lois qui ont déclaré l'immobilier insaisissable. Tandis qu'on a obtenu des lois pour interdire la saisie des instruments de travail, on a obtenu quelques lois qui ont défendu les ouvriers.
Locataires, descendons tous aujourd'hui dans la rue. Il faut par nos propriétaires que notre voix enfin soit entendue. Ohé, ohé, les locataires, proposons tous nos revendications. S'il faut, nous les imposerons, mais aujourd'hui, ne nous laissons plus faire.
Il y avait une propriétaire qui s'appelait Madame Chazelle. Admirable. Pas propriétaire, mais un vieux machin. Qui a du diplodocus, sur mon Dieu. Alors, évidemment, j'avais déjà fait quelques manifestations. Elle m'a donné congé parce que je m'occupais de grouper les locataires. Il n'avait pas besoin de me fournir de motifs. Elle avait le droit de me donner congé quand elle voulait dans les délais légaux, sans m'en fournir aucun motif. Mais tout de même, me l'a donné à moi, verbalement. Ah, ben si ça va bien. Alors j'ai résisté. J'ai dit, ben, je m'en irai pas. J'ai voulu la payer, elle n'a pas accepté. Et toute la procédure a suivi. Alors, tous les copains alertés venaient tous les jours. C'est des manifestations impossibles, la rue barrée par des agents. On se faisait monter des aliments par la fenêtre, drapeau rouge, ce que vous voudrez, etc. Ça fait un foin terrible dans Paris. Expulsion, on va en parler. Bah, comme toutes les expulsions. J'ai reçu un papier sur l'expulsé. Naturellement, je n'ai pas bougé. Le matin, la rue barrée des deux côtés par un cordon d'argent. Personne ne passe en plus. Les premiers déménageurs qui sont venus pour les manger, ils ont refusé de déménager. Je me marrais, comprenez-vous? Alors, ils ont été chercher des agents. Les agents ont déménagé, alors à ce moment-là, bon, il a fallu qu'ils cassent la porte, barricadés, comprenez-vous? Il a fallu qu'ils cassent la porte, il a fallu qu'une deuxième porte, ils la cassent, qu'ils cassent tout cela, comprenez-vous? Enfin, finalement, force est restée à la loi, à telle enseigne que, lorsque l'expulsion s'est produite, M. Lépigné, des préfets de police, m'a offert de me loger à la préfecture de police. J'ai dit, de vous dire que j'ai refusé. En le remerciant, d'ailleurs, poliment, mais c'était gentil de sa part. Ben, j'avais mis un drapeau rouge, ils m'ont fait enlever, j'étais poursuivi pour cela, enfin, c'est des à côté de la question, j'étais poursuivi, on m'a dit, mais dites dans un drapeau rouge, c'est... Non, mais monsieur Dichot, c'est comment? Non, monsieur Dichot, pas du tout, monsieur le président. Drapeau rouge, voyons, quand il y a un danger sur une route, des travailleurs qui travaillent, des gens passent, ils sont en danger, ils peuvent culbuter dans un fossé, il y a un drapeau rouge pour les inviter, pour leur indiquer qu'il y a du danger. Eh bien, la rue que j'habite, la rue de Danzig, était en danger tous les jours. Manifestations, des cordons d'argent de chaque côté, un coup est vite arrivé, il y avait un véritable danger. Il fallait bien que j'indique à ceux qui passaient dans la rue qu'il y avait danger à passer. C'était un signal de détresse, mais ce n'était pas un emblème révolutionnaire. Il dit, mais alors comment expliquez-vous un drapeau rouge de 4 mètres carrés? Tu ne sauras pas, monsieur le président, je l'explique simplement pas la différence du drapeau rouge planté à terre, puis du drapeau rouge porté à 10 mètres du haut du sol. Il faut bien qu'on le voie, il faut bien qu'il y ait des proportions suffisantes pour qu'on puisse s'apercevoir d'en bas.
C'est monsieur Cochon. C'est monsieur Cochon qui sera président de la République. Et les sans-pognons toucheront plus dehors dans la mauvaise